Inter, Alibadou, 15 minutes de plus.
Et dans 15 minutes de plus ce matin, j'ai le bonheur de recevoir une philosophe, essayiste, professeure de philosophie. Elle publie Le paradoxe du rire. Et si ce n'était pas toujours drôle, c'est aux éditions Segers, c'est passionnant. Et le livre vient de paraître en poche aux éditions Pocket. Bonjour Olivia Gazalet.
Bonjour Ali Badou.
Et bienvenue. C'est assez fascinant de voir une philosophe s'emparer de quelque chose qui a l'air aux antipodes de la philosophie. Mais on y viendra tout à l'heure, à savoir le rire. Le philosophe, en général, on le présente comme quelqu'un qui ne rit pas, qui ne sourit même pas. Mais c'est peut-être un préjugé. On va démarrer comme chaque vendredi, Olivia Gazalet, avec une expérience de pensée. Elle n'est pas franchement drôle, cette expérience-là. Imaginons qu'on est à un enterrement, donc à un moment évidemment lourd, triste. On est au fond de l'église ou on est au cimetière, dans une foule, devant un cercueil. On est proche d'un ami, on se tourne vers lui, il suffit d'un clin d'œil et on rit, ou en tout cas on étouffe, on retient son rire, on est pris de quelque chose qui, s'il éclatait, ressemblerait à un fou rire. Comment se fait-il qu'on ait parfois ces envies-là, ces envies folles de hurler de rire, Olivia Gazalet, alors que rien n'est drôle ?
Vous savez, la phrase de Desproges, il faut rire de la mort parce que la mort se rit de nous. Et en fait, cette expérience que vous décrivez, on l'a tous plus ou moins faite déjà, et elle nous met au cœur de la première fonction de rire, enfin la plus essentielle, qui est d'être une armure psychique contre le désespoir, contre la tristesse, contre la douleur, même contre la peur.
Une armure.
C'est un bouclier, oui, ça nous protège. Et c'est un peu paradoxal, mais un enterrement, c'est vraiment, toutes les conditions sont parfaitement remplies pour que le rire éclate, justement, parce que c'est un moment de solennité, de gravité, de douleur, de tristesse. Donc, la moindre petite incongruité, je sais pas, un type qui se mouche un peu trop fort pendant la cérémonie, et là, poum, ça suffit pour que le trop-plein d'émotions tristes, tout à coup s'évacue, c'est comme une soupape.
C'est comme une soupape, et donc on peut rire alors qu'il n'y a rien de drôle, ça fait partie de ce paradoxe que vous explorez avec beaucoup d'érudition, il y a des recherches, il y a une plongée dans l'histoire des manières dont on a ri et de ce que peut signifier le rire dans une société ou pour les individus, et le rire également dans le champ du pouvoir, dans le champ économique. On va en parler de tout ça, Olivia Gazalet. On peut donc rire alors qu'il n'y a rien de drôle. Vous parliez d'incongruité du rire. Restons dans cette ambiance d'enterrement. L'historien, le premier des historiens, Hérodote, il évoquait déjà des cas étonnants de ce qu'on appelle le rire funéraire en Thrace. En Thrace, lorsque quelqu'un mourait, il était enterré au milieu de plaisanteries ou de blagues.
Oui, ben ça c'est un phénomène qu'on peut observer dans l'Antiquité, mais déjà aussi à Babylone et en Égypte, pas seulement dans l'Antiquité grecque. Et en fait, on prêtait au rire une fonction métaphysique. Et le rire était lié à la fécondité, à la renaissance, à la régénération. D'ailleurs, on le trouve dans les rites de fertilité de Déméter, des rires rituels. Et en fait, on riait dans les enterrements parce que le rire symbolise le triomphe des forces de vie sur les forces de mort. Et d'ailleurs, vous connaissez sans doute l'humour carabin, je ne sais pas si on le pratique à la radio.
On le pratique hors antenne en général.
Hors antenne, mais...
Alors décrivez-nous justement, fonce plus tard dans l'histoire, au Moyen-Âge, l'humour dit carabin, il tire son nom de...
C'est l'escarabin qui était en fait le responsable de l'ensevelissement des pestiférés, c'est une corporation très spécifique, et en fait ils étaient confrontés à la mort.
Sous sa forme la plus monstrueuse. La plus
atroce,
angoissante.
Exactement. Et donc, cette corporation avait développé une culture de la plaisanterie crue ou macabre qu'on retrouve aujourd'hui, d'ailleurs, dans toutes les professions qui sont liées à la mort, comme les ambulanciers, les docteurs, les infirmières, les pompiers. Donc, c'est quelque chose d'assez salvateur et de libérateur et de cathartique de rire face à la mort.
Vous parlez de transformation et le mot est évidemment bien choisi. Je ne vous flatte pas, c'est que vous écrivez que le rire est alchimiste. De la même manière que l'alchimiste transformait le plomb en or, le rire change le déplaisir en plaisir, la détresse en allégresse. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire concrètement, ça, Olivia Gazalet ?
En fait, dans Alchimiste, il y a la dimension d'énigme, hein, parce que c'est une sorte de prodige, le rire, parce qu'il est capable de récupérer une émotion, un trop-plein d'émotions négatives, pour le métaboliser à travers des secousses jouissives du corps. Donc c'est quand même assez fascinant et mystérieux, que quelque chose de parfois très anodin d'ailleurs, qui produit ça. Et
c'est pas par hasard, hein, de parler du corps, parce qu'il revient régulièrement, le corps. Le rire, c'est une expression très corporelle.
Mais c'est une jouissance.
C'est une jouissance quasiment sexuelle.
Disons qu'il y a des similitudes avec la sexualité dans le côté abandon et dans le côté organique et dans le côté secousse incontrôlable et jouissive surtout, parce que on ne rit pas tous des mêmes choses, hein, comme vous l'avez dit. Enfin, le rire est une construction culturelle qui a évolué à travers les âges, mais en revanche, tout le monde aime rire, parce que ça provoque une volupté, une jouissance. Sinon, on paierait pas des places parfois très chères pour aller juste rire dans une salle d'humoristes.
Et quand je disais justement qu'il y avait une dimension économique du rire, je ne sais pas si elle est proprement économique, mais en tout cas, elle est consumériste. Il y a un consumérisme humoristique. Il y a une arme commerciale que peut représenter le rire. Il y a un empire du rire. Il y a malgré tout ce rire transgressif. J'aimerais qu'on entende un son. C'est un son extrêmement célèbre, c'est un film très connu, signé Milos Forman. Il raconte la vie du plus grand musicien de tous les temps, c'est Amadeus. Qu'est-ce qu'on entend là, Olivia Gazalet? Le rire de Mozart qui est aussi présent dans ce film génial que sa musique.
Oui, le film Amadeus de Milos Forman. Oui, effectivement, Mozart riait beaucoup, il ricanait même, et puis il avait souvent un rire assez grossier. Il adorait l'obscénité, le rire scatologique. Et en fait, Norbert Elias, le grand sociologue et écrivain, a donné de ce rire une explication à la fois psychologique et sociologique. Psychologique parce qu'il veut embêter son père.
Ouais.
Donc en fait, par son rire, il lui dit, écoute, parce que son père le tyrannise, donc il se venge en fait de la tyrannie de son père. Et en même temps, rire chez Mozart, c'est refuser de ramper, parce qu'en fait, ses commanditaires, donc la noblesse, l'admire beaucoup, mais en fait le traite comme un domestique. Et donc lui, il dit par son rire, c'est un rire d'insoumission, de protestation. Voilà, je vais les embêter, je vais aller rompre un peu ce rituel vétilleux de la cour et ses bonnes manières. Donc en les scandalisant. Et donc, c'est le seul pouvoir qu'il ait sur eux, c'est évidemment de les tourner en dérision.
Et il y a d'ailleurs cette fin de rire qui se termine par un paix. C'est une dimension que vous abordez en citant notamment le grand sociologue Norbert Elias, la jubilation du pipi-caca, le comique Proutier, Olivia Gazalet. Moi, par exemple, ça me fait énormément rire. Pourquoi est-ce que c'est drôle, les proutes?
En fait, tout l'humour scatologique, ça part du principe du retour du refoulé. C'est-à-dire qu'en fait, on nous a appris...
Oula, j'ai l'impression d'être en psychanalyse.
Oui, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire que, en fait, on nous a appris... En fait, c'est un rire, c'est intéressant, c'est que c'est pas du tout un rire bestial. C'est au contraire un rire hyper civilisé. C'est parce que la société nous a appris que quelqu'un de civilisé, c'était quelqu'un qui répudiait la bestialité, l'animalité, qui se comportait dignement en société, que justement, ce qui est trivial, quand ça revient, bien c'est une jubilation, parce que c'est un retour, une autorisation de dire des choses grossières, donc c'est un exutoire licite pour tout ce qui est refoulé.
Donc il y a une forme de transgression des normes, toujours, là pour le coup de la pudeur, de la bienséance, je n'y reviendrai pas trop longtemps, mais il y a le légendaire P de l'ours. Qu'est-ce que c'est ?
Oui, alors ça c'était une qui intervient dans beaucoup de folklore, dans beaucoup de surtout en Europe du Nord. C'est l'idée que en fait l'ours avalait les paix des vivants, qui étaient en fait considérés comme des âmes, comme des souffles divins. Et puis il hibernait, et à la fin du printemps, il allait manger une plante laxative, et là, poum, il pétait. Donc il débouchait le bouchon fécal, et ça libérait les âmes. Donc là aussi, on retrouve cette idée de régénération. Oui, parce qu'elles vont féconder la terre. Donc il y avait quelque chose, encore une fois, du côté régénérateur. Il y a une dimension profondément métaphysique là-dedans.
Et le paix plaît donc, écrivez-vous, à une mission spirituelle. C'est un souffle fécondant. Je ris en vous lisant, mais c'est vrai qu'on apprend énormément de choses. Vous abordez également le gros rire médiéval, porté notamment par celui qui est l'un des écrivains les plus drôles du panthéon de la littérature en France, à savoir Rabelais, la dimension corporelle également. Mais j'aimerais qu'on s'arrête sur le moment que nous vivons. C'est la période des carnavals à Rio, à Venise, en Extrémadure, en Espagne, Olivia Gazalet, parce que votre livre, c'est aussi un livre sur l'histoire du rire, et vous retracez l'histoire du rire carnavalesque qui est apparu au Moyen-Âge. Qu'est-ce qui se joue dans ce moment-là? C'est à nouveau un moment subversif. Pourquoi est-ce que le carnaval, c'est un moment où on rit et qui se termine en général par les flammes?
Oui, alors ça existait déjà dans la fête antique, hein, ces moments de subversion des règles et des interdits. Mais ce qui est important, c'est de considérer qu'en fait, c'était ces moments de liesse populaire étaient des moments en fait qui servaient le pouvoir, parce que c'est une subversion qui est à la fois artificielle, temporaire et très contrôlée, et qui avait en fait un rôle de régulation sociale, de pacification sociale, c'est-à-dire que pendant un instant, on laissait le désordre gagner la ville, inversion des hiérarchies, inversion des genres, inversion des normes, mais pour mieux relégitimer le pouvoir et les rapports de domination une fois la fête finie. Et ce qui est important, c'était que la fête se termine, et qu'au moment où elle se termine, bah, tout revient à sa place, c'est-à-dire la hiérarchie et l'ordre.
Et d'où Machiavel qui perçoit l'utilité de ces fêtes pour le politique, célébrer le désordre pour un retour à l'ordre. Il y a donc le rire et il y a l'utilisation, le pouvoir du rire qui peut être un pouvoir de domination. Et on le sait tous, il y a des logiques que vous décrivez très bien d'inclusion-exclusion. Il y a une dimension profondément identitaire. Il y a le rire avec et puis il y a le rire contre. Qu'est-ce que ça nous dit, ça?
On pourrait presque dire dis-moi de quoi tu ris et avec qui tu ris, et je te dirai qui tu es. C'est-à-dire qu'effectivement, le rire crée des connivences, parfois presque immédiates, entre les individus. Donc, ça crée des sortes de clans. Oui. Et donc, il y a les gens avec qui on rit, donc on partage des choses avec ces personnes-là, et souvent on rit contre. Et donc, dans cette dimension du rire contre, il y a une dimension souvent très salutaire et d'émancipation, mais il faut souligner qu'il peut aussi y avoir une dimension de dégradation. C'est-à-dire qu'il y a des rires sarcastiques qui sont des rires de domination, de destruction même. Parfois, on dit que le ridicule ne tue pas, mais le ridicule peut blesser et faire énormément de mal.
Et ça peut être aussi, au contraire, un instrument d'émancipation. Et
fait.
Vous racontez d'ailleurs les liens entre le féminisme et le rire et l'insoumission.
Tout
c'est absolument passionnant. Pourquoi est-ce qu'on a aussi diabolisé le rire? Pourquoi est-ce que pendant des siècles, l'idée répandue par les églises, c'était que Jésus ne riait pas?
Oui, alors ça c'est intéressant parce que c'est un débat. Que Jésus n'ait pas ri, son rire n'est jamais mentionné dans les évangiles. Bon, donc on en a déduit qu'il ne riait pas. En revanche, on a ri de Jésus. C'est-à-dire que Jésus a été moqué, ridiculisé, humilié, notamment pendant son calvaire, ses disciples aussi. Et donc l'Église en a déduit que le rire était satanique, diabolique, donc renvoyé au péché, à la damnation, à la sorcière, ce sont les sorcières qui rient. Et donc l'homme digne, respectable et grave.
La morale de l'histoire, Olivia Gazalet, mieux vaut en rire?
En ce moment, on a envie de se dire qu'en ce moment, la situation est tellement désespérée, effrayante, que le rire, c'est un défoulement collectif. C'est encore ce qui nous reste pour prendre une sorte de revanche sur cette situation ubuesque, dystopique qu'on est en train de vivre en ce moment dans le monde.
Merci infiniment, Olivia Gazalet, d'avoir été l'invité des 15 minutes de plus. Le paradoxe du rire. Et si ce n'était pas toujours drôle, c'est le sous-titre et c'est passionnant. C'est publié aux éditions Segers.